Bon midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Avec Jeff Fortin, Pascal CV, évidemment Antonine Niaccarini qui va commencer cette émission avec nous. On est très heureux de vous avoir avec nous. Évidemment, on va revenir sur ce budget fédéral. Vous en pensez quoi? 418-971-1021. 78 milliards de déficit. Vous pensez quoi de ça? Êtes-vous satisfait du premier budget Carney ou non? Écrivez-nous 418-971-1021. Également, vous pouvez nous écouter via la web radio sur le blvd.fm. Nos meilleurs moments se retrouvent là aussi. L'application BLVD-1021, meilleure façon de nous suivre partout où vous allez. C'est disponible sur l'App Store et Google Play Store. Et venez voir notre belle face sur Twitch. Twitch.tv/BLVD/FM. Venez nous voir, ça va nous faire extrêmement plaisir. Pascal CV, ça va bien?
Ça va très bien. Écoute, j'ai l'impression de finir l'émission avec Max en tapant dans une boîte et puis il y a du stock qui est sorti de là.
Hein?
Les heures d'ouverture maintenant des commerces, puis ben les gens qui sont tout le temps en train de prendre toutes les plages horaires, que ce soit en esthétique, qui sont partout dans les magasins maintenant à longueur de semaine, tellement qu'il y a eu un débat de société sur les pages Facebook en fin de semaine. Est-ce qu'on devrait empêcher les retraités d'aller dans les magasins de grande surface la fin de semaine parce qu'ils peuvent y aller la semaine? Je te le dis, Jeff, je ne m'attendais pas à ça. Le 418-971-1021, c'est rempli. Fait, écoute, on laisse ça de même,
ben ouais, on
gèle le
tantôt,
tout.
Là.
Mais... il y a assurément le budget là, qui a retenu mes dernières heures. C'est pour tous ceux qui se disaient « Ah, ça sera une continuité de Justin Trudeau, la façon de gérer l'argent du côté des libéraux. » On a vu un petit peu plus de droite économique dans ce budget-là. J'ai hâte d'entendre Antonine.
Yes, j'ai très hâte d'entendre Antonine. C'est du coup, on va l'entendre de suite.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Niaccarini.
On nous avait promis un budget générationnel.
Une nouvelle ère.
Une nouvelle ère. On a mis un beau brise-glace à la première page du budget avec la photo du Cap-Diamant en passant. C'est la ville de Québec.
Absolument.
Qui se retrouve sur le budget fédéral. Oui, puis j'ai un de mes amis qui habite justement le coin.
Ben, écoute, j'ai
envoyé... Et là, il me l'a envoyé fierpette.
Et je l'ai envoyé aussi à mes ex-beaux-parents en disant « Je pense que votre maison est sur la page couverture du budget. » On dit « On gagne-tu quelque chose? On a-tu une baisse d'impôts? »
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? On paye-tu moins de TPS? Qu'est-ce qui se passe? Bon, Antonine Niaccarini, t'en penses quoi de ce budget-là, tiens?
Ben, d'abord... Hier, vraiment, ma première pensée là, à l'écoute de ce discours du budget, c'était la déconnexion entre l'attitude du ministre des Finances et la réalité dans laquelle on se retrouve présentement.
Moi, là, j'avais été fâché au printemps dernier, quand Éric Girard, François Legault avaient pris des belles photos avec le budget, là, qui est épais comme 8 livres.
Tout sourire.
Tout sourire, puis ils venaient nous annoncer un déficit record.
Il était de combien, donc? 11 milliards, de quoi de même?
13,5.
Ouais, exact.
Moi, là, François-Philippe Champagne, hier, là, qui se promène, le gros sourire et que le coquelicot, wouhou! Budget générationnel! Guys! On l'appelle pas le lapin énergiseur pour rien. Là. Il y en a de l'énergie, François-Philippe Champagne. Ah oh, non, mais je vous le dis, c'est le budget qu'on attendait. Ça va transcender les
générations. C'est malade! Yeah!
Tu sais, là, j'étais quasiment avec une beers dans le salon à dire « Hey, yes, on boit pour la prochaine génération. » Puis là, il m'a assommé avec 78 milliards de déficit.
C'est tellement rendu des grands chiffres qu'on sait même plus qu'est-ce que ça veut dire. Là. Des investissements de 300 milliards de dollars, des déficits de 78 milliards de dollars. C'est rendu vraiment des chiffres astronomiques. Effectivement, l'attitude du gouvernement hier, tout sourire, on est de bonne humeur, ça applaudit à toutes les deux phrases.
Ouais, c'est
tout nécessaire.
Des ovations debout. Puis là, en entrevue avec Gérald Filion sur Radio-Canada, après avoir présenté son budget, François-Philippe Champagne nous dit ça.
Seulement regarder le combien, mais le pourquoi. D'abord, dans cette année, vous l'aurez vu dans les premières pages du budget, M. Filion, 75 % de ce qu'on a enregistré comme déficit cette année, c'est pour deux choses. D'abord, pour l'abordabilité, pour aider les familles qui en avaient besoin, la baisse d'impôts, par exemple, ou les mesures qu'on a prises pour les acheteurs d'une première maison. La deuxième chose, c'était la souveraineté. C'était cette réponse-là aux tarifs. Je pense que les gens qui nous regardent comprennent très bien, le monde a changé, hein.
Donc, faut pas regarder le combien. Faut pas regarder 78 milliards de déficit.
On regarde pas ça, Jeff.
Faut pas regarder le 322 milliards de déficit étalé sur 4 ans.
Non.
C'est là pourquoi?
Oui, exactement. Cela dit...
T'en penses quoi de ça? Parce que moi, là, tu sais, quand je regarde, puis là, je me dis, OK, avant que Justin Trudeau arrive au pouvoir, on avait une dette, puis là, j'arrondis d'à peu près 600 milliards. Là, un coup que... Trudeau est parti, puis que ce 4 ans-là va être fait de l'ère Carney, on va être rendu à 1 600 milliards de dettes. Mm-hmm. Fait que c'est 1 milliards de plus.
Avec tout ce que ça implique comme difficulté d'agilité, ça nous enlève de la capacité d'action pour les prochaines années, alors que les défis sont gigantesques. Bon, donc première des choses, c'est de se dire merci Justin Trudeau d'avoir laissé des déficits aussi élevés alors que les crises étaient même pas... Tu sais, je veux dire, la pandémie, c'est une crise importante, je suis d'accord. Mais il y a eu tellement de dépenses frivoles quand tu y penses, des dépenses qui n'ont même pas rapport avec les juridictions fédérales. Mm-hmm. Tu te dis sérieusement, te gérer vraiment comme une cigale alors que tu aurais dû gérer comme une fourmi. Ça, c'est la première des choses qui me vient en
clairement.
Tête. Puis on ne peut pas tout mettre sur le dos de Mark Carney puis de François-Philippe Champagne, quoique François-Philippe Champagne était là. Donc, ouais, on peut y mettre sur le dos.
On peut, c'est ça.
On peut y mettre sur le dos, mais pas sur, nécessairement sur le dos de Mark Carney. Ensuite, c'est vrai de dire qu'on est face à des défis complètement fou en ce moment et que ce budget-là, ben, les attentes étaient d'un côté basses, dans le sens personne ne s'attendait à avoir des cadeaux. Par contre, non. On s'attend à avoir un budget qui soit au service de ce qu'on nous a promis en campagne électorale, c'est-à-dire faire face à la crise commerciale et la crise économique là, dans laquelle, en fait, la tempête économique, puisqu'on n'est pas en crise économique comme telle, à laquelle on fait face présentement. Et là-dessus, je pense qu'on livre la marchandise. C'est un budget qui a le potentiel de transformer l'économie canadienne.
Ouais, avec nos investissements, notamment dans l'armement. Puis ces investissements-là, je suis vraiment pas contre parce que c'est vrai qu'il fallait faire une plus grande part pour l'OTAN. Donc là, tout ça vient
c'est
vraiment
logique.
En ligne de compte. C'est logique.
Puis les conservateurs auraient fait pareil. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est ils peuvent bien chialer contre les investissements. La réalité, c'est qu'ils auraient fait la même chose. Donc, des centaines de milliards de dollars d'investissements en défense, tu le disais, infrastructure. Parce que quand l'économie ralentit, le gouvernement va investir dans nos infrastructures parce que ça stimule l'économie, ça crée de l'emploi. On veut des chantiers.
Ouais.
On en profite, on crée des emplois comme ça pour pallier, en fait, la perte d'emplois dans d'autres secteurs de l'économie. On investit dans la productivité. On a un retard de productivité. Ça, c'est un vrai défi. C'est une bonne cible pour ce budget. Il faut juste voir le comment et si ça va vraiment porter ses fruits puis avoir un impact parce qu'on nous fait souvent des beaux discours, mais finalement, des fois, l'argent qu'on annonce au fédéral, le temps qu'il se rende sur le terrain, là...
Bien, il y a encore pas loin d'un milliard de bloqués pour ce qui est des infrastructures entre le fédéral et le provincial pour les municipalités,
absolument.
Notamment pour s'adapter au changement climatique. Ça, d'ailleurs, l'UMQ a fait une sortie encore une fois là-dessus hier.
Absolument. Puis le fédéral, de son côté, doit arrêter de mettre 12 000 conditions quand il veut transférer
de
l'argent.
C'est ça. T'sais, je regardais dans les postes budgétaires fédérales. Parce que là, soit dit en passant, on est rendu que ce qu'on perçoit en TPS, on sera même plus capable de payer les intérêts sur la dette.
Fait de là, notre déprime matinale.
De là, notre déprime. Les intérêts sur la dette vont être rendus le troisième plus grand poste budgétaire. Là, je le dis en rien, mais vous comprendrez que c'est sarcastique. Et là, quand je regarde les plus grandes dépenses, je fais santé, qui est un des dans le top 3 des postes budgétaires, mais la santé, ça appartient aux provinces.
Absolument. Donc, la responsabilité du fédéral, c'est de transférer de l'argent du déséquilibre fiscal vers les provinces. Puis, tu sais, le fédéral, il regarde ça, il se dit « Ouais, mais ça marche pas bien dans les provinces. » Effectivement, ça marche pas bien. Ça marchera pas mieux s'il y a des fonctionnaires fédéraux qui se mettent à essayer de gérer ça.
Mais non, exactement. Ça marche encore moins bien parce que là, tu dis « OK, je vais te donner de l'argent, mais à condition que tu fasses ça, puis ça, mais ma réalité,
puis
c'est pas ça. »
Puis remplis mes formulaires,
oui,
là,
puis remplis
mes
formulaires. Fait que là, comme ça, toi, tu vas être obligé d'ajouter.
Puis là, faut que tu mettes un petit drapeau canadien aussi sur l'hôpital. Puis c'est vraiment du niaisage et c'est pas efficace.
C'est ça. Fait que là, toi, la fonction publique au Québec, tu vas être obligé d'ajouter 20 000 fonctionnaires pour gérer les transferts, puis moi, je vais en ajouter 100 000.
Exactement. Tu as tout bien encapsulé, la problématique. C'est la même chose qui s'était passée avec l'entente sur le logement. Il y avait de l'argent qu'on attendait depuis des
épouvantable.
Années.
Épouvantable. Ça a duré 3 ans, je pense,
c'était une
cette
saga, là, cette affaire-là. Parce que pourquoi?
En pleine crise du logement, soit tout en passant.
Oui, puis c'est toujours le Québec. Le Québec, on se fait tomber sa noix parce que tu dis arrêter de têter puis accepter l'argent puis accepter les conditions. Mais c'est parce que tu commences à accepter 12 000 conditions, tu fais moins aussi de chemin avec tes dollars. Je ne dis pas que c'est parfait, là, la gestion dans les provinces, mais vraiment, le fédéral n'a pas de leçon à donner sur la gestion des programmes. Okay?
C'est ça, exactement. Hey, Félix nous pose une bonne question, puis justement, j'ai un extrait là-dessus. Il dit « Ouais, mais il faut regarder ça avec le PIB et la gang. » Et voici ce que François-Philippe Champagne avait à dire.
Bien, écoutez, vous avez certainement entendu les paroles de la directrice générale du Fonds monétaire international qui disait elle-même « Il y a deux pays qui peuvent vraiment se le permettre, c'est le Canada et l'Allemagne. » Parce qu'évidemment, on a les ratios les plus bas au niveau de la dette. On a l'un des ratios les plus bas au niveau du déficit. Comme vous avez dit, on a une cote de crédit enviable. Donc, on a une capacité fiscale qui est là.
Je suis allé voir, c'est vrai que le Canada, dans les pays du G7, on va tomber à 42 % de notre PIB avec notre dette. On est les meilleurs du G7. C'est l'Allemagne à 63 % puis là, ça monte comme ça jusqu'au Japon à 214 %.
Il faut mettre tout ça en perspective. Oui. Puis il faut rendre à César ce qui revient à César, et c'est vraiment correct. Je continue sur comment ce budget-là a le potentiel de transformer le Canada. Il y a aussi toute la question de la fonction publique fédérale, parce qu'on nous a annoncé hier des coupes dans les emplois dans la fonction publique. On parle de 16 000 seulement cette année, 29 000 à la fin de l'exercice. C'est beaucoup, entre guillemets, puis en même temps, quand on sait qu'on a ajouté 100 000 fonctionnaires sous Justin Trudeau, bien, ça fait pas tant que ça.
Tu y crois-tu vraiment? Parce que si on dit on y va par attrition, on remplacera pas les retraites, mais pour déjà avoir été dans l'appareil public...
C'est tellement dur de couper, là.
Bien, c'est ça. C'est parce que là, un part à la retraite, puis là, il va toujours avoir un gestionnaire pour dire non, mais c'est parce que moi, j'en ai besoin.
C'est nécessaire.
Ça, j'ai pas le choix, c'est nécessaire. T'es toujours un gestionnaire qui voudra pas renipper son département. Là. Donc, quand on me dit 40 000 par attrition, ben moi, je me dis ça va être 20 000. C'est moi qui est Thomas parce que c'est mon expérience que j'ai vécu comme 20 ans de gestionnaire.
Je partage un peu ton scepticisme face à ces planifications-là, mais honnêtement, Monsieur Carney, je ne trouve pas toutes les qualités du monde, mais je le sens assez déterminé et sincère dans cette démarche-là. Il a mis à la tête de la fonction publique fédérale Michael Sabia, qui est quelqu'un qui a travaillé dans le privé aussi.
J'ai vécu la restructuration Bell sous Michael Sabia. Donc, quand il décide de restructurer, il restructure.
C'est ça. Donc, je pense qu'il y a quand même du sérieux de la part du gouvernement dans cette démarche-là, et avec raison. Mm-hmm. Et ce qui est vraiment terrible, c'est que sous les années Trudeau, on a rajouté. On fait des annonces. Là, on annonce, je donne un exemple frivole, mais on va planter 1 milliard d'arbres.
Ouais.
Puis là, t'as des fonctionnaires qu'il faut que je gère ça après.
Mais c'était pas si frivole que ça, là. Il l'avait dit avec Greta Thunberg.
C'est ça. C'est correct, c'est important de planter des arbres. C'est juste que je sais pas pourquoi c'est le gouvernement fédéral qui gère ça. Honnêtement, plus c'est haut et loin dans les tours d'ivoire de la bureaucratie, c'est efficace. Finalement, je vous annonce qu'il n'y a pas eu 1 milliard d'arbres de plantés non plus. Il y en a eu une couple, cela dit.
Oui, mais il
n'y
en a pas 1 milliard.
Mais tu sais, à chaque fois qu'on fait une annonce comme celle-là, on rajoute des fonctionnaires.
Oui.
Ah, ben, ça prend une équipe pour gérer ça, ça prend des agents de ceci, des agents de cela. Et là, tout ça, là, ça finit par faire un serpent qui se mange la queue. C'est vraiment déprimant. Et en même temps, on n'en a pas plus pour notre argent. Parce que dans les ministères fédéraux, tout ce qui donne des services, c'est une catastrophe. L'Agence du revenu, terrible.
18 % de bonnes réponses.
Poste Canada. Le système de paye Phoenix.
Je commençais par bien aller.
Les
là.
Trains. Écoute, je pourrais continuer comme ça.
Frédéric Boisvert.
Immigration Canada. Tu sais, il y en a du pain sur la planche dans leur propre juridiction, là, les fédéraux.
C'est ça. Là, pourquoi qu'on se concentre pas là-dessus?
Concentrez-vous là-dessus.
Pourquoi on ne se concentre pas? Voilà. Le fédéral se concentre sur ses missions du fédéral. Le provincial, ses missions du provincial. Puis le municipal, ses missions du municipal.
Tu sais pourquoi ils se concentrent pas là-dessus, Jeff?
Pourquoi?
Parce que les juridictions fédérales, c'est pas sexy en campagne électorale.
T'as raison.
C'est pas sexy.
Un peu comme les juridictions municipales. Puis encore là, peut-être que c'est un peu plus sexy au municipal parce que les gens réalisent à chaque jour que c'est dans leur cours que ça se passe.
C'est plus concret, alors que le fédéral, c'est un petit peu plus loin des gens. Puis, tu sais, il y a eu un sondage cet automne sur les priorités des Québécois dans la presse. Puis c'était quoi les priorités des Québécois? C'était le logement, puis la santé, puis leur portefeuille. Mais donc, ces annonces-là électorales qui finissent par donner des nouveaux fonctionnaires dans la fonction publique fédérale, puis que finalement, après 6 mois, on se rend compte que ça ne répond pas au téléphone, puis qu'il n'y a pas de suivi, puis que c'est ça que ça donne. Donc,
tellement un bon point.
Cette partie-là de ce qui nous a été annoncé hier, il faut que ça atterrisse correctement. Il faut arrêter aussi de... Tu sais, j'aimais bien la promesse de Pierre Poilievre en campagne. Il disait, c'est pas compliqué. Moi, si vous ajoutez un fonctionnaire, on en enlève un ailleurs.
Ouais.
Bon, c'est un petit peu simpliste, mais c'est comme ça qu'on devrait réfléchir parce que finalement, ça finit toujours... C'est tellement facile de grossir, plus dur après de couper. On devrait vraiment y penser à deux fois avant d'en rajouter finalement.
Clairement.
C'est ça un peu le message, la leçon à retenir.
T'as tellement raison. Éric qui écrit, mais voyons, Jeff serait trop logique, serait trop simple à faire ce que tu dis, donc on le fera pas. Hey, on parlait justement hier, je disais... Ouais, mais là, les investissements. T'sais, puis là, j'entendais François-Philippe Champagne dire non, mais écoutez, là, c'est. Ah, ben même, j'entendais. Je vais vous faire entendre justement, quand il parle de budget de transparence.
Moi, j'appelle ça de la transparence, M. Fillon, et même la façon canadienne a été célébrée à Washington par le Fonds monétaire qui disait « ce que fait le Canada, c'est comme ça qu'on devrait faire ». Même chose pour l'Angleterre, avec nos collègues anglais, on a vu Singapour le fait. Moi, je pense que c'est de la transparence. Les gens comprennent. Quand vous allez à l'épicerie, vous dépensez. Quand vous achetez une maison, vous investissez. Alors...
OK. Quand vous allez à l'épicerie, vous dépensez. Quand vous allez à la maison, vous investissez. Oui, ça peut. C'est vrai, c'est une dépense d'investissement, une maison.
Tu peux la revendre.
Tu peux la revendre. Mais je dis ce que j'ai dit régulièrement. T'sais, elle fait partie de mon budget, ma maison. Elle peut pas être hors budget. Et je me suis rappelé de mes années dans le communautaire où j'avais à gérer le budget d'organisme communautaire. On en fait des investissements. Hey, OK, ça prend une nouvelle toiture. Bon, ben, investir dans une nouvelle toiture, on l'amortit sur 25 ans. OK, il faudrait agrandir le patro. Bon, ben, parfait. 4 millions pour agrandir le patro. On ramène ça sur 25 ans. Mais après ça, là, quand je fais mon budget, là, puis que ma firme comptable passe sur mon budget, là, ils me disent pas, hey, c'est-tu quoi? Ton 4 millions, là, t'as pas à le calculer dans ton budget. Non, mon amortissement sur 25 ans est dans mon budget et je dois arriver kiff-kiff à la fin. Mes amortissements inclus, donc mes amortissements font partie de mes dépenses.
T'as raison. En même temps, c'est vrai que toute dépense n'est pas égale. C'est-à-dire qu'il y a des meilleures dépenses que d'autres.
Ben oui.
Payer ton épicerie avec ta carte de crédit, ben oui, c'est pas une bonne idée. Payer ta maison puis avec une hypothèque, c'est une bonne idée.
En effet.
Ton prêt étudiant a quasiment pas de taux d'intérêt. C'est un investissement, finalement.
Oh, oui.
C'est correct. C'est juste qu'on le sait bien que c'est politique. Puis qu'on essaie de faire mieux passer la pilule. Tantôt, on se disait, là, ils en ont mis épais. Là, c'est générationnel, tout ça. Tout ça, c'était pour justifier la grosseur du déficit, finalement.
Ouais.
Là. Puis, moi, en tout cas, j'ai hâte de voir, là, mais les agences de notation, là, t'as beau changer tes méthodes comptables, d'après moi, ils changeront pas les leurs. Là.
Ben non, c'est ça. Et on se l'était fait dire, au lendemain de l'élection, faites attention à vos prochains déficits, parce que ça se peut qu'on vous décote.
Puis là, on est allé avec un déficit record. Peut-être que les gens à la maison se disent, on s'en fout, dans le fond, qu'ils nous décotent. Non, on s'en fout pas. Ouais. Hein. Honnêtement, ce que ça fait, ça a des impacts financiers pour la suite, ouais, quand on se fait décoter.
Et François Blanchette, hier, qui mentionnait également qu'il y a des crédits d'impôt aux entreprises qui se retrouvent dans les dépenses, mais d'investissement. Là, c'est pas une dépense d'investissement quand on donne un crédit d'impôt à une entreprise. Je comprends que cette entreprise-là, avec ce crédit d'impôt-là, va peut-être justement investir dans ces infrastructures, donc s'agrandir, s'acheter des nouveaux robots pour être plus productif. Mais là, maintenant, on étire l'élastique en tabarouette.
C'est ça, c'est où que tu tires la ligne entre ce qui est une dépense et un investissement. Moi, si tu n'es pas capable de revendre ton affaire après, là,
ouais, ben, c'est pas un investissement.
Pas un investissement.
En effet.
Compliqué.
Donc, il y a beaucoup de ça qui se retrouvent dans le budget d'investissement. Alors là, on nous dit, ouais, c'est 78 milliards de déficit, mais 80% de ça sont des investissements. Ouf.
La transparence, c'est de dire aux gens, on est pris avec ça, là. Puis entre faire juste de l'austérité,
mm-hmm,
pour absolument faire un petit chiffre de déficit pour vous faire plaisir et investir de façon massive. En fait, là, le bon message, à mon avis, ça aurait été de dire, c'est pas un budget extraordinaire dont les gens vont se rappeler pour toujours.
Oh, bravo.
Le bon message, c'est voici un budget de crise. C'est,
oui,
un budget de guerre.
Pourquoi on va pas là? Est-ce qu'on pense qu'on va être, en fait, pointé du doigt pour cette guerre-là, slash
économique?
Les gens n'ont
pas envie d'entendre ça, je pense.
En même temps, les gens ont envie d'entendre une transparence, ils nous l'écrivent à chaque jour. C'est corsé.
Je me demande toujours si les gens veulent se faire dire la vérité.
Tant
même
que ça,
dans vos vies personnelles, les gens là, qui vous demandent conseil, ils veulent-tu vraiment avoir la vérité?
Moi,
ou ils veulent se faire flatter,
oui,
dans le sens du poil?
J'essaierais. Si j'étais en politique, au moins j'essaierais. Puis on, ouais, voit que tous les paliers, tous les partis ne prennent pas cette lignée-là. Ça veut dire que c'est sûrement pas la bonne.
Moi, personnellement, puis je ne suis pas toujours l'électrice lambda pour toutes sortes de raisons, mais moi, j'aurais préféré qu'on me dise que c'est un budget de guerre, pas un budget extraordinaire, puis on sort le champagne.
Parce que ça aurait amené un genre de rigueur. On aurait eu l'impression d'avoir un gouvernement qui prend le vent de front,
oui,
de,
oui,
face, comme il
avec
devrait
sérieux,
le faire, avec sérieux.
Puis avec une certaine
crédibilité,
gravité.
Oui.
Dernier élément que je voulais souligner avec ce sujet-là, c'est qu'on parlait aussi des seuils d'immigration, parce que ça aussi, c'est un virage majeur là, du gouvernement Carney par rapport à l'époque de Justin Trudeau. Ça avait commencé un peu à la fin de Justin Trudeau, on était un petit peu moins optimiste là, sur notre capacité d'accueillir autant d'immigrants dans les prochaines années. On coupe dans l'immigration et principalement dans l'immigration temporaire. On sait, on a une crise du logement. Les provinces ont une crise des services publics. Donc, moins 43 % d'immigrants temporaires pour les prochaines années.
J'en profite pour saluer Nadine, une auditrice fidèle qui dit « J'attends la conférence du ministre Roberge demain pour savoir si je pourrais déposer ma demande de résidente permanente.
Ben, »
Alors,
oui.
Nadine, on te le souhaite. On veut te garder avec nous. T'es une personne issue d'une communauté immigrante en France qui travaille à Québec.
Ben,
c'est une immigrante économique.
Mais c'est ça. Puis c'est de l'immigration économique francophone. C'est ça qui est complètement fou en immigration en passant. Là. On change d'idée aux années. On change de politique. Les gens n'ont pas de prévisibilité. Je ne sais pas c'est quoi la situation personnelle de Nadine, mais je sais que ça crée énormément d'anxiété chez toutes sortes de personnes qui avaient des plans d'immigrer ici et que finalement, les règles du jeu changent à tout bout de champ. Ouais. En tout cas, bref.
Je te fais entendre ce monsieur.
On a besoin de faire une décision si on va offrir du leadership et travailler avec nos communautés ou le démolir, essayer d'opposer tout ce qui se passe aux chambres des communes. On a toujours quelque chose de bon avec le budget, avec des projets de loi qui sont importants pour nos communautés.
Chris D'Entremont, qui était député conservateur, a enlevé son gilet bleu, il a mis le rouge, il a traversé la Chambre des communes, puis il a dit à Pierre Poilievre, « Toi, là, tu dis trop des affaires pour empêcher le Canada de progresser. M'en va avec Marc. »
Ben oui, toi. C'est drôle, parce que c'était Pierre Poilievre qui était chef, puis il n'a pas vraiment changé depuis la dernière campagne.
Ben non, c'est ça. C'est drôle parce que sur Canada 338, ce matin, on est allé regarder puis sa circonscription en Acadie, comme par magie, là, 75 % de chances de gagner pour les libéraux.
C'est sûr que ça n'a pas de lien avec
mais
ça.
Mais ça n'a pas de lien, il n'a pas fait ça.
Non, c'est une question de valeur.
C'est comme Mme Poulet, 99 % la porte pour les libéraux. C'est pas ça qui l'avait amené à parler aux libéraux.
Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas ça du tout.
T'en penses quoi? Même, tu sais, Carney essaie de devenir majoritaire. Donc là,
oui, lui, ça réglerait son problème.
Il y en a un sur trois de fait. Et il y a plusieurs analystes que j'entendais hier dire ça, puis je trouvais pas fou, puis je veux t'entendre. S'il est majoritaire, Carney va pouvoir aller plus loin dans son austérité, sa rigueur budgétaire.
Oui.
Parce que là, hier, il a laissé des petites nananes pour les NPD, là, les soins dentaires, les coupes dans la fonction publique quand même relativement, je vais le dire comme ça, adéquate avec de l'attrition et non pas des coupes drastiques.
Mais attention, parce que s'il va si loin que ça, parce qu'il y a aussi à l'intérieur de son propre caucus des gens qui se posent des questions sur... Coudonc, moi, j'étais dans un parti de centre-gauche, puis là, tout à coup, on fait de l'austérité, on se fout de l'environnement. Il y a déjà eu quelques députés qui ont lancé des avertissements sur les questions d'environnement, notamment. Donc, c'est bien belle fun si tu vas gagner 2-3 députés conservateurs, mais si tu perds ton propre caucus... c'est pas mieux.
Ouais.
C'est vrai que d'avoir la majorité, ça réglerait son problème, surtout que les partis travaillent très, très mal à Ottawa en contexte de gouvernement minoritaire. On n'a pas vu beaucoup de collaboration dans les dernières années. Un Parlement qui a été pratiquement paralysé l'année dernière, qui n'est pas très productif. Donc, c'est sûr que ça serait mieux si on collaborait puis si on était capable des fois de faire des compromis puis de laisser la politique de côté, mais on va être réaliste. Donc, d'aller chercher 3 députés en tout, ça serait vraiment pratique pour Mark Carney. Bon. Maintenant, cela étant dit, quand même pense à la personne, Chris D'Entremont, qui est allé se faire élire sous une bannière. Il a mis sa face sur des poteaux avec la bannière conservatrice et 6 mois plus tard, sans aucune motadine de bonne raison.
Je te dirais même 6 ans plus tard parce qu'il est député conservateur depuis
ben
6 ans.
Ben oui. Non, mais oui. Puis, mais tu sais, des fois, par exemple, Jeff, moi... J'ai une certaine ouverture d'esprit face à quelqu'un qui change de parti.
Oui,
tu sais, René Lévesque, là, il était libéral, il est devenu PQ.
Lucien
Bouchard, il a changé. Tu sais, ça peut arriver une fois dans ta carrière parce que la dynamique politique, elle change. Les partis changent. Des fois, toi, tu n'as pas changé dans tes valeurs, mais le parti dans lequel tu es a dramatiquement changé et tu ne t'y reconnais plus.
En effet.
Fort bien, c'est correct. Maintenant, en 6 mois, tu sais, s'il y avait eu un changement de chef, mettons, OK, tu es conservateur, puis il y en a eu un changement de chef. Monsieur D'Entremont était là avant que Pierre Poilievre arrive. Peut-être que Pierre Poilievre, c'est pas sa tasse de thé, mais tu t'es présenté le printemps passé.
Oui, puis en même temps, je veux dire, c'est drôle, tu sais, quand Pierre Poilievre et les conservateurs étaient à 50 % dans les intentions de vote, ça, ils tentaient pas de changer.
Tu fais plus de compromis, on dirait, dans ce temps-là.
C'est ça.
Donc, bon, bref, on verra bien. Maintenant, moi, je pense que la prochaine source de députés qui pourraient traverser, c'est peut-être plus du côté du NPD. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas un gros bassin. Mais il y a une course à la chefferie au NPD. Et mettons que c'est un spécial là, qui gagne là, puis qui est un petit peu extrémiste, c'est barre. Il y a quelqu'un qui pourrait faire comme, bon, moi, ça ne me convient plus, je joins les libéraux. Il y aurait une raison de valeur à le faire.
En effet.
Le NPD est toujours à risque là, de s'en aller un petit peu plus vers l'extrême gauche.
Des courses à la chefferie, ça divise toujours un parti.
Exact.
Donc, il pourra avoir des chances là-dessus. Est-ce qu'on est en austérité caquiste si on a annoncé qu'on commençait justement le plan de coupure au niveau de la fonction publique?
Hey, je te renvoie une question comme réponse.
Ah ouais,
est-ce que le mot austérité est aussi mal vu qu'il l'a déjà été? Avant, là, c'était comme faux. C'est pas de l'austérité.
Ben, je pense que pour les syndicats, oui.
Ouais, mais à part ça,
dans la population, pas du tout. Avec les déficits monstres qu'on vient de vivre, on en veut de l'austérité, selon moi. Puis si je lis justement tout ce que les jeunes nous écrivent, vous réagissez beaucoup justement 418-971-101 par rapport au budget fédéral.
Pascal, t'en penses quoi?
Je pense que parce qu'on y a goûté, puis que ça a passé d'une façon aigre, certes, là, c'était pas bon.
Mais
on est habitué, puis
hein?
On sait que c'est ça qui nous amène à s'en sortir de cette crise-là économique en partie. Je pense qu'on est capable d'en remanger maintenant.
C'est intéressant. Moi, je pense que le mot est moins toxique qu'il l'a été, que les gens sont conscients des défis auxquels on fait face, que, mettons que tu demandes à n'importe qui, tu fais un box-pop dans la rue, est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires? Les gens disent oui. Mais des fonctionnaires, quand c'est théorique... Tout le monde trouve pas ça fait rien.
Ouais.
Mais après ça, les histoires se mettent à sortir. Là, hey, tu t'es fait couper ça. OK. Oh, il y a un impact ici. On n'avait pas pensé à ça. Mais
tel organisme.
Tel organisme qui n'a plus de réponse puis qui n'a plus de. Oh, OK. Ah, oh, ça, c'est des fonctionnaires, ça, des agents de la faune qui ne surveillent plus puis qu'on a vu une montée du braconnage. Oh, tatata. Quand ça devient un petit peu plus concret,
t'as raison.
L'appui descend. Puis, tu sais, là, on oublie, mais à l'époque de Philippe Couillard, on dirait que ça fait 200 ans, mais ça fait pas si longtemps que ça. Moi, j'étais dans l'opposition. Je travaillais à l'opposition à l'époque. À tous les matins, on avait une histoire avec quelqu'un qui avait un impact négatif grave
d'austérité.
Des coupures. OK? Puis, tu sais, on était pas fin, là. T'sais, on venait le matin là, avec des personnes handicapées qui pouvaient plus changer de chaise roulante parce que leur programme avait été coupé.
Vous le mettez
avec
dans leur face, là.
C'est des vrais gens qui avaient des vrais impacts. On arrivait avec les centres jeunesse-emploi qui s'étaient fait couper puis avec des jeunes qui avaient perdu leur service. À tous les jours, on avait des exemples. Au niveau fédéral, moi... Honnêtement, ça marche déjà pas. Ça,
c'est
plus
loin
flou, c'est loin. Bon, c'est correct. Mais au Québec, là, ça va brasser. Puis généralement, les fonctionnaires, c'est pas des gens qui sortent beaucoup dans les médias. Fait que, t'sais, évidemment, eux vont pas. T'sais, ils vont avoir de la résistance passive, mais ils vont pas trop sortir. Par contre, les syndicats vont être vocaux. En ce moment, les syndicats, est-ce qu'ils ont autant d'écho qu'ils ont déjà eu? Peut-être pas.
C'est non.
Mais si les oppositions à l'Assemblée nationale font une bonne job de trouver du monde qui sont touchés par ces coupures-là, trouver des non-sens. Étant donné que la CAQ est tellement déjà en difficulté, moi, je pense que ça va brasser dans les prochains mois. Donc, la ministre, en fait, la présidente du Conseil du Trésor, Françoise-Hélène Duranceau, qui a déposé un projet de loi ce matin, il y a des fusions, de la mutualisation. Donc, c'est des organismes qui vont devoir regrouper certains services pour être plus efficaces. On demande aux sous-ministres et aux PDG là, des différentes entités gouvernementales de trouver des moyens d'être plus efficients, de couper des postes, etc., etc. Donc, ça faisait partie des priorités que le premier ministre avait évoquées dans son discours d'ouverture. Puis on va de l'avant avec ça. On est sur beaucoup de fronts en même temps. Hein.
Oui, exactement. Puis on tente de gagner du capital politique, mais on ne réussit pas là, à l'heure actuelle parce que ça crée énormément de friction même à l'intérieur de l'équipe.
On essaie en urgence de faire bouger l'aiguille des sondages, c'est clair. Mais en même temps, on sent que le gouvernement sont un peu en mode bucket list. Parce que faut savoir que François Legault, casser les syndicats, briser certains carcans gouvernementaux, aller plus rapidement, puis les médecins, là, ça fait partie des obsessions qu'il y a depuis les années 90. C'est vraiment dans ces dadas. Donc, oui, il y a une partie d'on essaie de gagner des points, mais il y a aussi une partie de on se fait plaisir présentement.
Oui, c'est ça. Il y a aussi une partie. Il me reste un an à faire. Fait que comme ça, gars, je vais faire des barres sur ma bucket list. Hey, en 30 secondes, on en reparlera demain parce que Luc Laliberté nous attend pour parler du phénomène Zoran Mandani qui a été élu maire de New York. Les autruches En BC, qu'est-ce qui se passe, là?
Hey, je t'avais parlé de la ferme d'autruches, là, ouais. Des pauvres petites autruches qui avaient pogné à grippe aviaire, puis là, finalement, là, les propriétaires veulent pas qu'on tue les autruches, puis là, même RFK aux États-Unis s'en était mêlé, puis disent qu'il fallait pas tuer les autruches, puis tout ça. C'est vraiment bizarre, mais hier, ben, il y a des manifestations devant la ferme d'autruches régulièrement, il y a quelqu'un qui est décédé.
Ben, c'est ça que tu m'as envoyé comme article. J'ai dit,
mais c'est une mort non suspecte. Fait que là, il n'y a pas eu, je sais pas, ça n'a pas de lien finalement avec les autruches.
Faites une crise cardiaque en essayant de protéger les autruches?
Ben oui, c'est Colin, il devait vraiment être...
Prendre ça à cœur.
Ça, il prenait ça à cœur, sans mauvais jeu de mots. Mais tout ça pour dire que c'est demain que la cour va trancher sur le sort de ces pauvres autruches de la Colombie-Britannique.
On se dirige vers quoi? On le sait-tu ou c'est vraiment nébuleux?
C'est très nébuleux. Dans le fond, c'est un appel. Hein. Fait que la première décision de la cour, c'était de dire que c'est le principe de précaution. Donc, si c'est un cheptel a été touché par la maladie, bye-bye les autruches. Mais on est en appel. Donc, on va voir si finalement, on va sauver les autruches puis les évaluer une après l'autre pour savoir si elles vont survivre.
Tiens-nous au courant. Je suis super content de voir qu'RFK veut que les autruches survivent, mais qu'il est contre les vaccins.
Ben oui.
Ça fait plein de sens.
C'est logique.
Oui, c'est très logique. C'est l'administration Trump à son meilleur. D'ailleurs, on va parler de ça au retour de la pause avec Luc Laliberté parce que l'administration Trump a mangé une rince hier à New York, en Virginie, au New Jersey et en Californie. Donc, Luc Laliberté nous analyse ça avec tout son professionnalisme et son expérience. Immédiatement après la pause à l'émission, on en jase sur les ondes de Boulevard 101.